Alors je priais et me demandais quoi apporter en ce dimanche de Pâques. Lors d'une conversation, Jessica, ma fille, m'a fait cette remarque, assez pertinente me semble-t-il, « Mais papa, Pâques, c'est un peu toujours la même chose, non ?» Mais je pense que, quelque part, elle n'a pas tout à fait tort. Dans un sens, à quoi ça sert d'innover et de prendre le risque surtout d'être hors sujet, surtout le dimanche de Pâques ? Donc pour y voir plus clair, je me suis remémoré, parce que j'ai dû le faire, ça ne m'est pas venu facilement, j'ai dû me remémorer le sens de Pâques. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est la vie, qui est la source de toute vie, s'en va vers la mort par amour pour nous. Alors rien que de le dire comme ça, la source de la vie s'en va vers la mort, ça devrait faire réfléchir les philosophes et bien d'autres pendant plusieurs siècles, me semble-t-il. Comment est-il possible, en plus, de devoir en arriver là, et par amour, en plus ? Jésus s'en va vers la mort, la seule chose dont certains pensent qu'il n'est pas le Créateur, et dont, en tout cas, il ne connaît pas la substance, étant éternel. Par expérience, il ne sait pas ce qu'est la mort, la finitude, la fin de quelque chose. Et pourtant, par amour, il va décider de goûter à la mort pour pouvoir la vaincre, afin que, comme le dit si bien Paul, et cette phrase est assez extraordinaire me semble-t-il, afin que la mort soit engloutie dans la victoire, ou encore que la mort soit absorbée par la vie éternelle. Et nous pourrons tous assister pratiquement à cet événement quand nous serons nous-mêmes ressuscités. Donc cette victoire sur la mort emportée par Jésus a aussi pour effet d'ores et déjà de nous libérer de la peur. Normalement, nous ne devons plus avoir peur de la mort, car la mort et la résurrection du Christ en ont triomphé définitivement. Et c'est pour cela que Paul s'adresse à la mort en disant, et je prends un premier texte, « Mort, où est ton aiguillon ? Mort, où est ta victoire ?» Alors, l'aiguillon est un terme un peu désuet, sauf pour ceux qui ont peut-être résidé pendant 25 ans à la campagne. L'aiguillon, c'est ce bâton de bois terminé par une pointe en fer dont les paysans se servaient pour diriger le bétail, pour faire avancer les bêtes ou les faire changer de direction. Alors ici, vous avez le modèle le plus récent. C'est un modèle électrique. On se modernise, hein, surtout pour faire du mal aux bêtes. Cet aiguillon, dans la pensée de Paul, c'est le péché qui nous a conduits à la mort, qui est responsable, en fait, de notre mort physique. Car le dit Paul encore en Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort. Mais, heureusement qu'il y a le mais, hein, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On comprend dès lors mieux pourquoi Paul, en s'adressant à la mort, dit ceci. Et si je devais le paraphraser, je dirais, « Tu ne me tortureras plus, tu ne me dirigeras plus, tu as été vaincu par celui qui aujourd'hui me dirige et me guide, et qui n'a pas d'aiguillon, lui. Je n'ai donc plus aucune peur de toi, je n'ai plus peur de la mort. » Et mes amis, si nous n'avons, c'est le sens, si nous n'avons plus peur de la mort, ben de quoi devrons-nous encore avoir peur ? Tout ça, c'est à ça que je vais y arriver, c'est là-dessus que j'aimerais bien qu'on réfléchisse, tout ça est né de notre foi. C'est au travers de la victoire de Jésus sur la mort, sur notre péché et sur le diable, au travers de sa mort et à notre place sur la croix et de sa résurrection, que notre foi est venue à l'existence. S'il n'y avait pas eu tout ça, notre foi, n'existerait pas. Elle serait morte, en quelque sorte. Et la foi, la base de notre foi, c'est la foi en cette bonne nouvelle absolue. Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. C'est là que, si j'étais pasteur dans une église de Pentecôte, tout le monde dirait « Amen !» Vous ne forcez pas, hein, faut que ça soit naturel ou ça n'a aucun intérêt. Je vais devoir arrêter deux secondes parce que je suis tellement déçu. La vie, la vraie vie, celle que Dieu seul peut donner, celle qui est éternelle, ne s'obtient que par la foi. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La foi, c'est la certitude profonde que Dieu a tout accompli pour nous, par amour, que le Christ est mort pour nous à la croix, qu'il est ressuscité pour nous, pour que nous ayons accès à cette vie. L'origine de notre foi est en la vie que Dieu donne et dont l'assurance réside dans le fait historique, et j'insiste sur historique, que Jésus est ressuscité. Vous savez que souvent, par provocation, je dis qu'il y a plus de preuves de la résurrection de Jésus que de la présence de Napoléon à Waterloo. Hein. Mais vraiment, hein. Pâques nous confronte, comme tout à nouveau, à ce que nous disons croire, à ce que nous croyons vraiment. C'est facile de dire « il est ressuscité », mais est-ce que nous croyons vraiment ? Pouvons-nous dire avec assurance et confiance « il est ressuscité » ? Célébrer Pâques, ce n'est donc pas seulement ce que je viens de faire, se remémorer un événement passé, se souvenir plus ou moins vaguement d'éléments d'une histoire mille fois racontée. Pâques, c'est célébrer la vie. Pâques, c'est la célébration de notre foi, mes amis, où ce n'est rien. Ça ne représente rien. Alors ce que je dis ne devrait pas vous surprendre, car il est écrit dans la Bible que seul celui qui a la foi a la vie pleine et entière. Et ce texte, même s'il sera repris dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, ce texte d'abord se trouve dans le livre du prophète Habacouc. Pour les Belges que nous sommes, ou les Bruxellois en particulier, le mot « cook » devrait nous parler particulièrement. Et que dit Habacouc ? Le juste vivra par sa foi. Alors tous les chrétiens, beaucoup de chrétiens en particulier évangéliques, ils adorent ce verset. Ah, le juste vivra par sa foi. Mais ce que dit Habacouc, c'est que la foi est notre assurance. Si on l'a, c'est clair qu'on sait où on va, on sait avec qui on est en relation, à savoir le Dieu vivant. Mais c'est aussi notre condition. C'est la condition. Et d'être en assurant notre assurance parce qu'elle fonde, elle enracine notre certitude d'appartenir à Dieu, de connaître Dieu, parce que sans la foi, on ne peut pas le connaître. Et elle est aussi notre condition, car nous devons vivre à partir d'elle, pour elle, et donc ne jamais cesser de croire. Notre foi doit alimenter notre vie. Elle doit être notre carburant, elle doit être notre boussole. Et quand je dis boussole, je veux bien entendu, elle doit être à la base de nos décisions, de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Il est peut-être temps de redire ce qu'est la foi. Il y a une définition biblique et on va en profiter. Croire en Dieu ou la foi, hein, c'est la traduction de parole vivante. Croire en Dieu, donc la foi, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, les posséder déjà, comme s'ils étaient déjà là. C'est être persuadé, hein, c'est une conviction profonde, hein, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Plus loin, dans le même chapitre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « C'est par la foi que nous savons que Dieu a créé le monde, l'univers. » Par la foi, demandez à quelqu'un qui n'a pas la foi, il vous dira tout ce que vous voulez, mais certainement pas que Dieu a créé le monde. Il ira jusqu'à dire aussi, et Paul le reprendra dans une de ses épîtres, il ira jusqu'à dire que c'est l'invisible qui a créé le visible. Et pourquoi est-ce que l'on croit ça ? Parce que nous avons la foi. Mais mes amis, on va essayer d'être lucides deux secondes, peut-être trois, allez. Notre foi, elle peut être ébranlée. Elle peut prendre des coups, notre foi. Je ne sais pas la vôtre, hein, mais la mienne en a déjà pris dans la tronche. Hein. Elle peut être attaquée. Je pense même aujourd'hui, je n'ai pas toujours pensé ça, ce n'est pas que je change d'avis tout le temps, mais enfin, je continue à potasser quand même pas mal. Je pense même qu'aujourd'hui, dans certaines circonstances, elle peut même être détruite, littéralement détruite. Mais c'est aussi cette fragilité qui la rend si précieuse et fondamentale aux yeux de Dieu. Je reste dans Hébreux. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas, s'il n'a pas la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci, Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Donc tout à fait pratiquement, demander quelque chose à Dieu et vous dire, oh, de toute façon ça ne sert à rien, il ne me le donnera pas, ou il ne m'entend pas, il n'en a rien à faire de ma vie, ou de qui je suis, ou de ce que je peux bien penser, demander ou vivre, c'est clair que vous ne risquez pas d'entendre grand-chose. Mais la question que j'aimerais vous poser, et que je me suis posée, lequel d'entre nous, en ce jour de Pâques, oserait affirmer que ce qui est le plus important dans sa vie, c'est sa foi dans le Christ ? C'est bien de faire sonner les cloches le dimanche de Pâques, hein, ça c'est pas. Mais est-ce que c'est vraiment notre foi en Christ qui est le plus important ? Où en est ma foi ? Je pense que c'est une question que nous devrions nous poser régulièrement, parce que notre foi est attaquée tous les jours, et que tous les jours, si nous ne prenons pas garde, nous perdrons un peu plus de terrain, tout simplement parce que nous n'aurons plus conscience de ce qui se joue vraiment au niveau le plus profond de notre être. Et en réfléchissant à ça, il y a un passage de l'Évangile qui m'est venu. Merci Seigneur, de temps en temps, il y a un truc qui me vient. C'est ce passage dans Luc. On le retrouve dans d'autres évangiles aussi, hein, dans les synoptiques. C'est un peu avant qu'on arrête Jésus. Il a réaffirmé pour la troisième fois ses 12 plus proches collaborateurs qu'il allait être arrêté et mis à mort. On connaît la réaction de Pierre, hein, ce Pierre, très arrogant. Et par rapport à la réaction de Pierre, Jésus lui dit ceci. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Ce que Jésus annonce ici à Pierre, et à titre personnel, je pense que c'est assez terrible, et ça rappelle un peu le livre de Job aussi, c'est assez terrible. Et derrière ça, il y a une question, me semble-t-il, qui devrait se poser. Qu'est-ce qui est ici en jeu dans ce que Jésus dit? Quel est le risque? Le danger encouru par Pierre et au-delà de Pierre, encouru par tous les autres disciples, parce que c'est bien à Pierre que Jésus donne la responsabilité, quand il sera revenu, d'affermir ses frères, de consolider leur foi, de la fortifier. Ce n'est pas seulement Pierre qui est en cause, qui joue sa tête. C'est tous les autres qui jouent la leur, sans le savoir. La parole, elle est adressée à Pierre, et uniquement à Pierre. Quand Dieu nous dit quelque chose en ligne directe, arrêtez de chercher autour de vous quelqu'un d'autre pour partager ça, c'est à vous qu'il le dit. Pour répondre à cette question, qu'est-ce qui est en danger ici? Il faut s'arrêter sur l'image utilisée par Jésus. Et je connais ce texte depuis forcément des années, je l'ai bien lu 1000 fois, hein, facilement. Certainement, je ne sais pas compter, hein, je vous rassure. Hein. Pour bien comprendre, il faut revenir à cette image du battage du blé. Parce que moi, je suis un citadin, mes amis. J'ai été élevé à Bruxelles, j'ai déjà souvent dit, mais quand je partais parfois un week-end à la campagne, le premier truc que je refaisais le dimanche matin en revenant à Bruxelles, c'est mettre ma bouche à un pot d'échappement et prendre ma douche de CO2. Quoi. Je suis un citadin, moi, à la base. Je suis en mission d'évangélisation à Braine-l'Alleud. 30 km de Bruxelles, c'était le maximum pour moi. Donc, moi, le battage du blé, brassage de la bière, à l'époque. Je réponds, le battage du blé, ça ne me disait rien. Et pour peut-être la première fois de ma vie, en tout cas, j'ai compris avec profondeur ce que Jésus est en train de dire à Pierre. Et vous savez comment ça marche, s'il l'a dit à Pierre, peut-être pas tout à fait impossible qu'il soit en train de le dire à nous. C'est une opération, le battage du blé, durant laquelle on sépare la balle, donc le résidu non comestible entourant le blé, du grain de blé lui-même. Il faut faire cet exercice où vous allez manger des trucs pas très bons pour vous, quoi. Et au bout de l'opération, reste dans le tamis le grain de blé, d'accord, épuré de tout ce qui n'est pas comestible. Alors de nos jours, cette opération est accomplie par les moissonneuses-batteuses. Ils font les deux, elles font les deux. Mais à l'époque de Jésus, on passait les grains dans un tamis. Ce que Jésus dit à son disciple, c'est que c'est ça qui va lui arriver. Alors, j'ai jamais été un grain de blé, mais je pense que comme exercice, ça ne doit pas être très facile à vivre. Ça doit être franchement douloureux. Et pourquoi est-ce qu'il va être passé au tamis? C'est ça que Jésus lui dit. Et c'est pour ça qu'il est en danger. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on écoute. Il va être passé au tamis dans le but d'extirper de lui la moindre trace de sa foi. C'est ça le but de cet exercice. Ce n'est pas Jésus qui va le passer au tamis, on a bien compris. Hein. C'est l'ennemi de l'âme de Pierre qui va le passer au tamis. Que cette nuit qui s'annonce, on connaît l'histoire, hein, il va renier son maître. Que cette nuit qui s'annonce pour Pierre, cette nuit durant laquelle il va trahir son Seigneur, que cette nuit durant laquelle il va renier celui qu'il aime plus que tout, que cette nuit n'en finisse jamais. Qu'il n'en sorte jamais de cette nuit. qu'il reste prisonnier des ténèbres de son désespoir, que sa foi soit engloutie. C'est ça l'objectif. Au travers de cette simple parole prononcée par une femme au coin d'un feu quelques heures plus tard, « Mais toi aussi, tu étais avec cet homme. » Ils avaient un accent terrible, les Galiléens. Je parlais de Bruxelles, c'est comme si un garde Mons vient à Bruxelles, on ne va pas passer à côté. Hein. Un Bruxellois à Mons, on ne passera pas à côté non plus. Hein. Toi aussi, tu étais avec cet homme. Ton accent te trahit. Au travers de cette simple phrase, la foi de Pierre va être passée au tamis. L'ennemi de nos âmes et de la sienne va presser l'apôtre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de Pierre. Il va le passer au travers du tamis afin que sa foi y demeure. Vous voyez, il va le passer, hein. Il va l'écrabouiller pour que les lambeaux de Pierre tombent en dessous et que dans le tamis, il ne reste quoi ? Il reste que la foi de Pierre pour que lui puisse la contempler et en faire ça. Fini la foi de Pierre. Et si la foi de Pierre est morte, mes amis, l'Église en substance est morte, elle est mort-née, elle n'ira pas plus loin. J'aime bien qu'on lise ces textes avec beaucoup de facilité, de dégagement, mais quand on s'arrête un petit peu, on se rend compte des enjeux. Parce que c'est un des trucs qu'on ne comprend plus aujourd'hui, ce sont les enjeux. À chaque seconde, ce qui se passe dans ce monde et dans l'autre. Pouvoir contempler la foi de Pierre et l'écrabouiller, c'est la foi de Pierre qui est en jeu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a prié pour que la foi de son disciple tienne. Qu'elle tienne bon malgré la culpabilité qui va lui ronger l'âme. Malgré la douleur qui va étreindre son cœur. Sa foi doit tenir même confrontée à l'effondrement de sa propre image. Il avait dit « Je mourrai pour toi » et là, il se déballonne. Il faut encaisser ça, mes amis, que vous n'êtes pas cet homme courageux que vous pensiez être. Que votre foi, elle n'est pas si forte que ça. C'est aussi seulement dans Luc qu'au moment où le coq chante pour la troisième fois, Jésus se retourne et regarde Pierre. Et c'est là que Pierre comprend. La prière de Jésus va soutenir la foi de Pierre afin qu'il demande pardon et qu'il revienne. Et qu'il puisse raconter aux autres disciples que quand notre Seigneur prie pour nous, prie pour que notre foi ne soit pas détruite, on n'est jamais, malgré les apparences, hein, on n'est jamais tout à fait mort. Qu'après la nuit, le soleil se lève toujours. Mais ça va faire mal. Et c'est probablement en ressongeant à cette terrible épreuve que Pierre, bien, bien des années plus tard, va écrire ceci. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, veillez, priez, dans d'autres traductions. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Alors, à dévorer quoi, mes amis ? Vos membres physiques, votre chair, vos os, pff, rien à foutre de ça. Ce qu'il va chercher à dévorer, c'est votre foi. Passe sa vie à ça, lui. Foutu pour foutu, autant que j'en bute quelques-uns avant de partir. Dévorer notre foi en la résurrection. Notre foi en la vie qui est en nous, notre foi en son amour pour nous. En ce qu'il a fait pour nous, pour qu'elle n'ait plus qu'un goût de cendre froide. Que la chaleur de la présence de Dieu ne soit plus qu'un souvenir. Que nous soyons comme des morts vivants. Comme Judas, qui lui n'est jamais sorti de sa nuit. Enfin oui, les pieds devant. Et cela n'aura échappé à personne que dans l'expression mort-vivant, le principe c'est qu'on est plus mort que vivant. Des morts vivants incapables d'articuler la moindre syllabe concernant la vie qui est en eux, parce qu'ils l'ont oublié eux-mêmes. C'est ça le plan de l'ennemi de nos âmes. C'est ça son plan. Et quand je regarde l'Église aujourd'hui, et parfois ma propre vie, je me dis qu'au niveau du plan, il a raison de ne pas en changer, ça fonctionne bien depuis 2000 ans. Il a des armes pour faire ça, pour détruire notre foi. Il a tellement d'armes à sa disposition. C'est toujours les mêmes, mais bon. Je vais faire un petit récapitulatif, si vous le permettez. Alors, il y a bien sûr nous, ce que nous sommes, par nature. Pour Pierre, je l'ai dit, un de ses gros problèmes, c'était la présomption. Voilà. Il restera quelqu'un, toujours un battant en pied. Il va rester un battant, mais il aura appris. Il va arrêter de sortir des trucs, à parler plus vite qu'il ne pense. Il va arrêter de faire ça. Même s'il fera encore l'andouille, on a des traces dans le Nouveau Testament, et c'est ça qui m'encourage, c'est qu'on ne cache rien dans la Bible, des faiblesses des hommes. Rappelez-vous, cet épisode d'Antioche où il mange avec des chrétiens d'origine païenne, Pierre, même s'il est juif, il sait bien que tout ça c'est des conneries, il peut manger et ripailler avec les autres. Et puis il y a des chrétiens d'origine juive qui rentrent dans la pièce, qui eux tiennent encore la loi de Moïse, ils ne mangent pas n'importe quoi, et certainement pas avec des chrétiens païens. Et là, Pierre, il est pas bien et il change de table pour qu'on ne le voit pas avec les chrétiens d'origine païenne. Et là, Paul, il voit ça, il dit, mais il est fou ce mec-là, quoi. Et Pierre et Paul va le reprendre devant tout le monde. Il va lui dire, tu es une andouille, en grec. Si, allez vérifier dans le texte. Oui, notre ennemi possède bien des armes pour cribler nos âmes et les expurger de leur foi en les laissant exsangues et à l'agonie. Alors j'en cite quelques-unes, à part nous-mêmes. Les soucis de la vie, ça c'est un grand classique, et Jésus en a déjà parlé, vous rappelez, dans la parabole du semeur. Alors pour faire simple, c'est quoi les soucis de la vie? Je paraphrase. Seigneur, nous avons une vie à vivre, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte comme c'est difficile de concilier le travail, les enfants, la famille, mes loisirs, mes voyages. Mon studio en Espagne, ça c'est pour moi. C'est pas le mien, moi j'ai rien. Même si je ne manque de rien. Vous mettrez ce que vous voulez, après du studio à la caravane, soit les chevaux, tout ce que vous voulez. Le tennis, le football, soit. C'est tellement difficile la vie ici-bas, Seigneur. Vraiment. Toi qui nous contemples de ta croix, tu dois te rendre compte combien c'est dur, tu parles. Puis il y a un autre truc qui marche bien, mais ça on y est peut-être moins sensible. C'est l'intellectualisme, ou ce qui a donné plus tard le libéralisme théologique. En gros, toutes ces histoires dans la Bible, ce sont des fables. La résurrection de Jésus, c'est une métaphore de tous les renouveaux dans la vie que nous pouvons connaître. Amen. Après, vous débrouillez avec votre âme, votre péché, votre mort, et puis parce que tout ça, ça tombe, évidemment. S'il n'est pas vraiment ressuscité, on est mal. Et c'est Paul qui le dit. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi, elle vaut rien du tout. Elle sert à rien. Et il ramène jusqu'à dire « arrêtez tout de suite », ça ne sert à rien. Et puis il y a le scientisme aussi, ou le pseudo-triomphe de la raison. Seul existe ce que l'on peut prouver de manière empirique, et on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, donc autant s'adapter, et autant surtout s'occuper d'autre chose. Et puis bien entendu, il y a la culture ambiante, la culture dans laquelle nous vivons tous et toutes. Et surtout son message déculpabilisant et relativiste quant aux exigences de Dieu. Dans cette culture, mes amis, la voix de Dieu est devenue inaudible, noyée dans le brouhaha incessant du monde qui nous entoure. On n'entend plus rien. Vous savez, pour certains d'entre vous savent que Isabelle, Jessica et moi, nous étions à Bologne il y a quelques jours. Notre fille va peut-être... Le peut-être est toujours d'actualité. Va peut-être passer, c'est en troisième année d'université, elle va peut-être passer 4 mois de sa vie là, à l'université de Bologne, en Erasmus. On était en repérage sur les lieux. Puis un matin, je ne sais plus quel jour, peu importe, la fenêtre de la cuisine était un peu ouverte dans l'appartement qu'on avait loué. Nous avons entendu des chants monastiques. Cool, Je ne vais pas vous les refaire, mais ça parlait de Pâques, forcément. Moi, j'aime beaucoup les chants monastiques. Ma femme, elle est morte de rire quand elle entend ça. Ça la fait rire. Dès que je suis à la maison, je dois me cacher pour écouter mes chants monastiques. Et alors, j'ouvre la fenêtre et je me penche, parce qu'il y avait l'appartement était sur une grande artère, et je regarde et je ne vois pas de moine qui défile. Zut, j'espérais voir une procession, je ne sais pas. Donc, apparemment, ils diffusaient ces chants monastiques à travers de haut-parleurs, etc. Et je me suis dit, c'est sympa, Seigneur, qui diffuse les chants. Et puis, juste après, ça m'est venu. Il y avait plein de monde dans la rue. Les gens marchaient, ils avaient des sacs de course, ils rentraient dans le magasin, ils faisaient les soldes parce qu'il y avait encore apparemment de belles défalques sur les prix. Ils vivaient leur vie, quoi. Dans l'indifférence totale de ces chants monastiques qui annonçaient la résurrection de Jésus. Rien à faire, plus rien à faire de tout ça. Mais la musique était diffusée, hein. Mais eux marchaient comme des morts-vivants, comme si ça n'existait pas. Ça m'a vraiment frappé, parce que je pense que c'est une bonne image de la vie que nous vivons, nous, souvent, même plus conscients de la présence de Dieu. On se lève, on fasse la journée, on se couche. Les différentes choses que je viens d'énumérer, rapidement, je sais, hein, ont conduit bon nombre d'entre nous, bon nombre de chrétiens, à une forme d'indifférence vis-à-vis de Dieu. Et ça, ça se marque par un symptôme, on va prendre un texte qui est super mal compris la plupart du temps, ça se marque par un symptôme déjà en germe au 1er siècle. Au 1er siècle, ils avaient déjà le problème. Je reste dans Hébreu. N'abandonnons pas, notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, la grande majorité des exégètes, et surtout dans les milieux protestants dont nous sommes issus, ben, quand on dit n'abandonnez pas votre église, il parle en fait, il dit oui, l'auteur parle ici de faire l'église buissonnière. On brosse l'église. C'est plus grave que ça, mes amis. Ce que l'auteur, j'ai pas le temps de débloquer tout le contexte, mais ce que l'auteur dit ici, c'est que c'est un symptôme, l'abandon de l'église. Ça n'est qu'un symptôme. Quand vous avez la grippe, hein, vous avez le nez qui coule, ça n'est qu'un symptôme. Le contexte, c'est l'apostasie. Ce que l'auteur traite dans ce chapitre, c'est dit, n'abandonnez pas Jésus. N'abandonnez pas votre foi dans le Christ. C'est ça le contexte. Et ce fameux jour, cette grande assemblée dont il parle, c'est l'assemblée des croyants qui seront avec leur Seigneur, enlevés à la fin des temps. C'est ça le contexte. L'auteur dit, concentrez-vous là-dessus pour ne pas courir le risque de prendre ce chemin qui consiste à dire l'Église, j'en ai strictement plus rien à caler. Je l'ai fait, hein, pendant 3 ans, donc je sais de quoi je parle. Ce que l'auteur exhorte ses lecteurs à ne pas faire, c'est abandonner leur foi. Alors vous me direz, mon Dieu, mais c'est impossible, hein? Faut vous réveiller les cocos, hein? L'Église missionnaire n'est qu'un symptôme d'un mal plus profond, la dilution progressive de notre foi dans un mélange fait de doute, de scepticisme et d'assimilation d'une autre vérité, celle liée à ce que nous avons décidé de vivre. C'est ce que nous vivons qui devient la norme de vérité de nos vies, et plus que Dieu dit. Et 90% des chrétiens aujourd'hui sont dans ce range-là, dans ce cadre-là. Ce qui me fait dire, on n'abandonne jamais l'Église avant d'avoir d'abord abandonné Jésus. Mais ça, on ne s'en rend pas compte. Je vous dis, je suis passé par là, 3 ans. Ah, j'ai râlé, hein, sur l'Église, sur les réponses. Enfin, c'est normal, j'étais blessé. Oui, mais quel était le problème? Le problème, c'est que j'avais désobéi. Et que cette désobéissance m'a séparé de Christ. Je voulais plus entendre ce qu'il me disait parce que ça m'aurait fait revenir en arrière. Résultat des courses, il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai envoyé toutes les références à Dieu par la fenêtre. Mais quelle est la plus grosse référence à Dieu? Mais c'est l'Église, hein. C'est ça que vous baquez en premier. Parce que c'est intolérable d'être confronté à votre connerie en permanence. On n'abandonne jamais l'Église avant d'avoir abandonné le Christ. Jamais, même si ça ne fait pas plaisir à entendre. Et moi, quand j'ai compris ça, ça ne m'a pas fait plaisir du tout. Jacques le dira de cette façon très directe, qui est sa marque de fabrique. Je remercie souvent le Seigneur de ce que tout l'Évangile n'est pas écrit par Jacques. Parce que j'aurais plus de mâchoire, à force de... C'est le frangin de Jésus, Jacques. C'est peut-être pour ça qu'il se permet des trucs que les autres ne se permettent pas. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à notre foi ? Car comme le corps sans l'esprit est mort, donc si votre cerveau, enfin votre esprit fonctionne plus, vous êtes cliniquement mort, la foi sans les actes est morte. Bang! Allez, prends ça dans ta tête. Mais la première conséquence d'une vie de foi, d'une foi vivante, est-ce qu'elle n'est pas la participation à la vie du corps du Christ? J'en connais un des amis chrétiens qui sont dans les... Vous savez que cette église a été montée en part pour les non-chrétiens d'abord et... pour la plus grande église de la planète, celle qui est dans la rue. Les frères et sœurs qui ont été tellement massacrés par tout des, plein de choses que finalement, ils ne vont plus nulle part. Ils sont complètement largués. Et tout le monde s'en fout en plus. Ce n'est pas un jugement, mais c'est repenser, recomprendre quel est le problème, le fond de notre problème, la plupart du temps. Pas, s'il y a un truc que vous vous rappelez de ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est ça. Et vous ferez ce que vous voulez. Hein. Et l'esprit aussi. Pâques est la célébration de notre foi, une foi vivante, active, ou elle n'est rien. Donc si l'année prochaine à Pâques, je ne suis pas là, ça pourrait arriver. Hein. Je ne suis pas meilleur que les autres. Hein. En cette Pâques 2019, et je termine en disant ça, c'est donc peut-être une nouvelle mer rouge que nous sommes appelés à traverser. Je dis ça parce que Pierre, encore lui, dans sa deuxième épître, dit que le peuple d'Israël est passé à subir un baptême en passant par la mer rouge. Nous sommes peut-être appelés à passer par une reconsécration, à demander à Dieu pardon de ce que notre foi, c'est le cadet de nos soucis. De ce qu'il demande, c'est le cadet de nos soucis. Quand il dit « ne va pas à droite, on y va quand même », c'est le cadet de nos soucis. Quand il ne désobéit pas, parce que l'opposé du pharisianisme, du légalisme religieux, ça n'est pas la grâce, hein, mes amis, c'est l'obéissance. Les pharisiens n'obéissaient pas, hein. Ils faisaient semblant d'obéir. À l'intérieur, c'est une catastrophe. Hein. Je pense que Jésus nous invite à ne plus écouter les sirènes du monde. De penser que ce que nous pensons, que le regard que nous portons sur nos propres vies est un regard juste, équilibré. Et que Dieu peut être d'accord avec ça. Mais bien sûr que non, mes amis. Parce que par nature, on va faire quoi? Mais les andouilles. Moi, sans le Christ, moi, je fais l'andouille. Je ne sais pas vous, hein, vous ferez ce que vous voulez. Hein, mais sans Dieu, moi, je suis un aveugle. Nous sommes appelés à veiller. Alors quel est l'intérêt du veilleur, du gars qui ne dort pas? Mais lui, il sait ce qui se passe, puisqu'il reste éveillé. Ce n'est pas pour rien que Jésus, dans ce très beau passage de l'évangile de Matthieu, il dira à ses disciples, hein, il dit pas ça à la foule, hein, il dit ça à des gens qui commencent à avoir la foi. Il dit, je vais revenir un jour, hein, vous avez intérêt à être éveillé quand je viendrai. Alors, je ne sais pas s'il faut interpréter, je ne comptais pas sur moi pour vous réveiller si vous dormez. Vous resterez là, ça je ne sais pas. Exégétiquement, je ne sais pas. Peut-être que d'où ça, mais moi je ne sais pas. Ou si, demander à ma fille ce que ça fait quand je la réveille en sursaut, à 11h du matin, à 3h de l'après-midi, à 8h du soir, je plaisante. Hein. Je la taquine. Il va revenir dans la nuit, a-t-il dit, comme un voleur. Et il rajoutera, heureux ceux qui seront éveillés à mon retour. Et le premier pas pour devenir un veilleur, c'est prier sans arrêt. Et surtout être lucide par rapport à soi-même et évaluer sa foi régulièrement. Et pour ça, et ça c'est la bonne nouvelle, si quand même, il y en a une bonne, hein, je crois que je vous ai un peu pris là, mais la bonne nouvelle c'est que pour évaluer notre foi et notre relation à Dieu, nous devons nous appuyer sur une seule chose. Sur la prière du Christ pour nous. Sur la prière de celui qui est vivant au siècle des siècles. Et que nous puissions ce matin, en ce dimanche de Pâques, proclamer comme tout à nouveau, et notre cœur rempli d'une foi vivante et réelle, que le Christ est vraiment ressuscité et qu'il nous ressuscitera, nous aussi. Que notre vie ait un sens, que nous cessions de jouer à l'Église, mais que nous soyons l'Église. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.